Donc on a un petit moment pour un jeu de comment, questions-réponses.
J'aurais très bien la fin, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu pouvais nous dire qui à l'époque est le porte-drapeau de ce combat pour la sécurité sociale, si on peut dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt des intellectuels, des partis politiques ou des groupes sociaux comme les mutuelles, des choses comme ça? Comment ça se présente?
Pas les mutuelles en tout cas, parce que la mutualité a été extrêmement résistante au principe de sécurité sociale. Ce qui est un peu normal, puisqu'elle vivait sur l'absence de sécurité sociale. Et bon, ça sera une bataille, d'ailleurs, en 1945, lorsqu'on installera un système de sécurité sociale, la mutualité qui va d'abord la combattre va ensuite se réinstaller sur le côté incomplet du système de sécurité sociale qui est monté. Donc à l'époque, non, la mutualité n'est pas du tout à l'avant-garde de ça. Bah, j'ai un petit peu cité les gens qui, au sein du Parti radical ou autour, portent un peu ces idées. Hein. Léon Bourgeois, c'est la figure centrale. Qui est-ce qu'on peut citer d'autres?
C'est des revendications officielles?
Ben, c'est pas vraiment des revendications. Alors, d'abord, les partis, encore une fois, hein, c'est surtout les individus qui portent ça. Alors, il y a des débats importants. Jean Jaurès a posé ces questions-là, hein, à travers le débat au moment de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Il a soutenu le principe de la loi, mais en disant c'est mieux que rien. Donc, toujours de Jaurès, mais en même temps, il a bien mis l'accent en disant d'ailleurs qu'il faudrait aller vers un système où une cotisation générale permettrait de couvrir l'ensemble des maux sociaux. Donc il avait une vision assez anticipatrice. Il y avait un autre socialiste, comment s'appelait-il, Axement, je crois, Aimant, oui, Alexandre Aimant, qui était dans... Bon, il y a Vaillant aussi, qui au Parlement a défendu des principes de ce type-là. Donc il y a des personnalités comme ça, mais c'est un entrecroisement effectivement entre les grands intellectuels. Bon, Jaurès était un peu au carrefour hein, de ces courants intellectuels-là, hein, les gens de l'école normale supérieure. Et puis bon, il y a des intellectuels comme Maxime Leroy, comme qui participent à cette réflexion-là. Et c'est bon, Léon Bourgeois est aussi un grand franc-maçon. Hein, il est très donc Le Grand Orient de France joue un rôle de diffusion de cette idée-là. Hein. La franc-maçonnerie joue un rôle assez progressiste dans ces milieux-là. Donc on a ça, c'est presque plus que le mouvement socialiste ou syndical. Encore que dans le mouvement syndical, on verra la prochaine fois, notamment sur les retraites ouvrières et paysannes, il y a une partie de la CGT, y compris des syndicalistes révolutionnaires, qui met tout à fait le doigt sur les impasses de la capitalisation et qui pose la question de la cotisation obligatoire. Donc c'est assez multiforme, c'est pas très structuré, mais disons c'est vraiment il faut vraiment regarder ça en termes de mouvements d'idées quoi qui se mettent en place, qui s'opposent. Et alors après guerre ça sera d'autres hein, parce que là il y aura une loi sur les assurances sociales en 1930, bon elle a plein de trous, elle est incomplète, etc. Mais toutes les années 20 ça va être aussi un débat là-dessus qui va être repris par d'autres où là on verra plutôt Buisson ou des socialistes comme comment il s'appelle, j'ai pas la mémoire des noms dans mon boulot, c'est un peu gênant des fois, ça me reviendra, mais un socialiste député de Savoie qui a joué un grand rôle dans les assurances sociales. Bon, il finira mal sous Vichy, donc on a un peu oublié son nom, mais... Enfin bref, c'est des personnalités d'abord hein, qui poussent ça, et puis après-guerre, bon, la CGT réformiste va le porter beaucoup, de manière beaucoup plus structurée. Mais jusqu'en 14, on est encore dans cette espèce de tâtonnement... à la croisée du monde politique et intellectuel.
Oui, je trouvais ça. Vous avez parlé un peu de Gramsci là, enfin, je trouvais ça intéressant et du fait que comment on installe les idées. Il me semble que là, suite à la présidentielle et pendant la présidentielle, je ne sais même pas si c'est pas Sarkozy ou des gens parlant de citant Gramsci justement et du fait qu'il avait installé toute une pensée, toutes des idéologies même, et que c'était un petit peu comme ça qu'il avait réussi à construire, enfin à faire croire, à opposer par exemple les assistés et les travailleurs, et des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez
de
ce principe-là
Bon, c'est pas un principe, c'est une certaine analyse. Bon, Gramsci, un philosophe marxiste italien des années 20 hein, en Italie. Bon, il a fait beaucoup de prison, mais du coup, il a eu le temps de réfléchir. Mais il réfléchissait déjà avant d'être en prison. C'est quand même un des grands penseurs marxistes du XXe siècle. et notamment par rapport, enfin lui, il pensait à un marxisme révolutionnaire dans les sociétés occidentales développées, ce qui distingue sa pensée de celle de Lénine, qui lui pense la révolution dans un pays agricole, arriéré et féodal. Donc la pensée de Gramsci réapparaît de temps en temps, effectivement, et lui, le cœur de son analyse, enfin rapporté à ce que vous dites, effectivement, ça a réapparu à l'époque Sarkozy, c'est de dire qu'au fond, la société ne tient pas uniquement sur le principe de coercition, et qu'un groupe social qui, aux affaires, disons, qui pilote la société, un groupe ou un alliage de groupes, enfin, ce qu'il appelle un bloc historique, hein, un bloc, une alliance de classe, disons, on peut appeler ça comme ça, hein, ne tient durablement dans la société que si, en même temps, il crée une adhésion à sa domination, c'est-à-dire qu'il est capable, bon, Marx avait avant lui dit que la bourgeoisie devait, pour assurer l'avenir qui lui était promis, transférer son propre intérêt sous la forme d'un intérêt général. Gramsci reprend ça en disant que tout groupe social doit, enfin, pour asseoir sa domination, il doit susciter un système de pensée, de représentation sociale, culturelle, qui légitime sa domination. Donc c'est ce qu'il a appelé, d'où ce concept d'hégémonie, il le voit pour la bourgeoisie, donc qui assied son hégémonie à partir de la coercition et de la et de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut que pour justifier telle ou telle forme de gouvernement, que disons à travers la culture, à travers d'autres dispositifs, ce qu'il appelait les casemates et les fortins de la société bourgeoise, c'est-à-dire pour dénoncer cette idée que c'était une guerre de tranchées, hein, la lutte des classes, il montre qu'au contraire, il faut conquérir différentes places sur le champ de bataille, et notamment le champ de la culture, le champ des idées est important dans la production ou dans la préparation, hein, de l'hégémonie d'un groupe à venir. Et il développe pour ça cette idée de ce qu'il appelle des intellectuels organiques, c'est-à-dire qu'il existe toujours dans la société à différents moments, des groupes d'intellectuels dont le rôle social est de produire la pensée, de produire les représentations du monde qui légitiment soit le système installé, soit légitiment le système à venir. C'est pour ça qu'on l'a dit pour Sarkozy. C'est-à-dire, il a préparé pendant des années antérieurement au ministère de l'Intérieur cette idée qu'il y avait les bons pauvres et les mauvais, il y avait les étrangers, il y avait les nationaux, etc. Et que, ayant installé et matraqué ce système d'idées, eh bien, après, tout naturellement, la victoire électorale était un résultat de ça. Donc, c'est pas. Le fait politique s'explique, dans ce cas, par l'évolution de facteurs culturels et par le travail de mise en forme sociale, de mise en forme dans les représentations des idées. Et c'est ça le caractère tout à fait moderne de Gramsci, hein, pour la pensée. C'est une. Parce qu'elle met au premier plan, alors c'est déjà dans Marx, hein, mais ça avait été un petit peu mis de côté par Lénine. Mais en tout cas, Gramsci montre le rôle important des idées, hein, qui fait que très souvent, quand on ramène le marxisme à un économisme privilégiant les structures, etc., bon, c'est pas tout à fait vrai déjà dans Marx, mais en tout cas, il y a des continuateurs de Marx qui ont insisté au contraire sur le rôle de la lutte des idées, hein, dans le déplacement du pouvoir dans la société. Et Gramsci, c'est pour ça que j'ai fait cette incise là-dessus, parce que je pense que à ce moment-là, on voit se dessiner ce qui sera plus tard une autre alliance, celle de 45, hein, entre une bourgeoisie nationale un peu, et puis la classe ouvrière, hein, en France, un nouveau bloc historique, en tout cas, qui va durer un moment et qui permet d'asseoir un système de sécurité sociale. Et là, dans ces périodes-là, hein, c'est la pensée de ce système qui se met en place, et faut reconnaître que les radicaux ont contribué à ça avant la lettre, avant de devenir un parti conservateur, ce qui sera dans l'entre-deux-guerres, ou même après, sans parler d'aujourd'hui, hein. Parce que vous savez que le grand leader radical, c'est Jean-Louis Borloo, hein, aujourd'hui. Donc, les radicaux, ils ont fait leur chemin. Hein. Mais à cette époque-là, disons que, tout en incarnant des forces qui ne sont pas le mouvement ouvrier, etc., ils ont joué un rôle plutôt positif dans l'avènement d'idées qui, progressivement, vont être structurantes dans la réalité sociale. C'est en ça que bon, certains considèrent, dont je suis, que la pensée de Gramsci est toujours un référent utile pour comprendre ce type de mécanisme.
Il y a eu ce phénomène-là aussi aux États-Unis, non, par rapport à...
Oui, Bush, Reagan...
Il y avait eu tout un temps qui a dépassé le retour...
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Je réfléchis à plusieurs questions. Tout à l'heure, vous parliez à la fin du 19e siècle, disons vers 1890, qu'il n'était pas possible d'être démocrate et catholique. Qu'est-ce que représentaient les démocrates à cette époque? Pourquoi le fait de ne pas être démocrate et catholique? Point d'interrogation.
Dans la mesure où l'Église, au XIXe siècle, s'est tout entière dressée contre la démocratie, l'héritage de la Révolution française, qui avait mis à bas l'alliance millénaire du trône et de l'autel, comme ça qu'on parlait. Donc l'Église était liée historiquement aux monarchies, et même au début, enfin pendant toute la première partie du XIXe siècle, quels que soient les bouleversements de la Révolution industrielle, l'ère des révolutions, etc., qui caractérise cette période, quand on regarde la carte d'Europe, elle est encore dominée par des monarchies. Et l'Église consolide le pouvoir de ces monarchies traditionnelles. Et l'expression typique, c'est effectivement ce pape un peu singulier, enfermé dans Rome, Pie IX, qui appelle quasiment à la croisade contre la République, contre l'idée républicaine. Alors en Italie, évidemment, face à Garibaldi, tous les mouvements de l'Italie, enfin de la péninsule à cette époque-là, il est un peu coincé. Mais alors en France en particulier, l'Église catholique française va être très longtemps très hostile à la République. À la fin du 19e siècle, le journal de l'Église, c'est Maurras. C'est l'Action française. D'ailleurs, l'Action française va être le journal des catholiques jusqu'à 1928, où Maurras va être condamné par le Vatican. À partir de ce moment-là, on voit l'Église de France qui se détache un peu de la référence monarchique. Mais dans ses institutions supérieures, l'Église de France est encore, c'est la gueuse, la République. Donc on est vraiment... Alors, ça ne veut pas dire que le moindre catholique dans son moindre village est forcément tout entier dressé contre la République, hein. C'est pas ça du tout, mais dans ses institutions, en tout cas, l'Église catholique est hostile à la République assez tard, et je dirais que c'est Vichy qui va solder le tout, hein, parce que à Vichy, ils y sont tous. Enfin, pas tous, l'évêque de Lyon n'y est pas. Il y a quelques dignitaires ecclésiastiques qui refuseront le prince esclave, hein, comme ils disent, qui condamnent Pétain, mais autrement, la plupart des dignitaires de l'Église sont quand même à Vichy, hein, c'est la divine surprise, c'est quand même... Et on y parle de la gueuse, hein, en parlant de l'avènement de l'État français, de la mort de la République. Donc, si vous voulez, et cette idée que la République apporte le droit de vote, etc., et qu'il faut participer à la vie politique de la République, les catholiques français sont très, très, très en retrait. Et il y a très peu, il n'y a pas véritablement de parti catholique. Vous avez donc, les légitimistes, évidemment, sont catholiques, hein, mais il n'y a pas, en tant que tel, un parti catholique qui va s'inscrire dans les institutions de la République. Alors, si, il y a Sangnier, hein, le Sillon, qui se crée au début tout à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, il y a des catholiques français progressistes qui pensent qu'il y a une place pour l'inscription dans la logique républicaine. Mais c'est pour ça que je dis qu'à cette époque-là, démocrates et chrétiens, ça sonne pas juste. C'est pas une réalité de cette époque-là. Ça va le devenir en Italie, parce que, bon, en Italie, à l'époque, à partir du moment où Léon XIII arrive, en 1890, il va commencer à faire prendre ce tournant. Alors en Italie, il les a sous la main, c'est plus facile. Donc va naître le grand parti du peuple, hein, le parti Populo, en Italie, qui est un parti démocrate chrétien, dès cette période-là. Alors il va être étouffé après par Mussolini, mais il y a un grand parti du centre, hein, qui est un parti démocrate chrétien, et en Allemagne aussi, le Zentrum est un grand parti de droite, mais qui participe en tant que tel. Mais il a aussi un programme social, d'ailleurs, hein, parce qu'à cette époque-là, l'Église fait effort pour se rapprocher du monde ouvrier, ne serait-ce que parce qu'en Allemagne, les sociaux-démocrates occupent une place assez gigantesque. Or, eux sont des marxistes, des matérialistes, etc. Et donc, si l'Église s'intéresse aux ouvriers, c'est pas uniquement, c'est parce que c'est un groupe social qui émerge, qui est important, et qui se structure en dehors de l'emprise de la religion. Au contraire, c'est les religions athées qui se saisissent de la conscience des ouvriers. Donc, l'Église réagit, hein, à partir de la fin du siècle, essaie de développer un syndicalisme chrétien et de développer des partis aussi pour intervenir sur la scène publique, ne serait-ce que pour défendre les intérêts de l'Église, hein, le système concordataire, par exemple, dans les pays qui le connaissent. Donc, mais en France, on n'a rien de tel. On n'a pas de parti. Il y aura un petit parti démocrate populaire qui va se constituer en 1920, mais il est tout petit, il ne va pas peser dans la vie politique. Et le seul parti démocrate chrétien qu'on ait connu, c'est le MRP, après 1945, qui sort, donc c'est l'aile catholique résistante, le parti de la révolution par la loi, il s'appelait, d'ailleurs assez singulier comme définition, mais bon, qui va être un petit peu à gauche, puis qui va glisser à droite très vite, et très à droite, au moment de la guerre d'Algérie. Bon, après il se dissout, c'est le Canuet qui devient le référent démocrate chrétien, et aujourd'hui c'est François Bayrou. Mais vous voyez bien qu'en France, même le MRP, puissant, reconnu, légitime, issu de réseaux de la résistance officiellement chrétiens, hein, enfin les gens se reconnaissaient comme tels, n'a jamais utilisé le référent démocrate chrétien. On n'a jamais eu un parti qui se revendique ouvertement de la démocratie chrétienne. Et ça renvoie au débat laïque de cette époque-là. C'est-à-dire que le champ politique sous la Troisième République au tournant du siècle, il se constitue en l'absence des catholiques, et même contre eux d'une certaine manière, hein, puisque la séparation de l'Église et de l'État se fait dans la douleur. Donc on a une coupure assez radicale à ce moment-là, et il n'y a pas d'installation d'une représentation politique qui s'intitule démocrate chrétien.
Le MRP était cependant un parti démocrate chrétien.
Oui, c'était un parti démocrate chrétien.
Était un programme du Conseil national de la résistance.
Bien sûr, très impliqué dans la résistance. Mais qui ne s'est pas affiché comme tel, parce que, ils expliquaient très bien à l'époque, hein, la France est laïque et c'est irréversible. Et donc, c'est pas la peine si on s'affiche en tant que chrétien. Alors, en plus, c'est un débat à cette époque-là qui a amené le personnalisme, hein, sur le sens d'être chrétien et d'agir au monde. Bon, c'est un débat. J'y reviendrai parce que c'est un débat qui a traversé le syndicalisme chrétien. Dans les années 50, c'est comme ça que la CFTC chrétienne devient la CFDT, hein, par un processus interne de requalification de sa doctrine, mais c'est un débat qui a traversé, bon, Maritain, Mounier ont porté ce débat-là en France et ailleurs, sur la façon dont les catholiques ou les chrétiens devaient penser leur action dans le monde laïque. Et il était assez porté, dans ces courants-là, de dire qu'il ne servait à rien d'afficher une référence catholique, l'important c'était d'agir en tant que chrétien, mais pas forcément en chrétien brandissant son drapeau. Donc ça, c'est un débat qui a eu lieu dans l'Église et qui faisait qu'au moment où il a eu lieu, de toute façon, ça n'avait plus grand sens d'arriver en affichant la référence chrétienne dans un sigle politique. Ça n'assurait pas le succès en plein mouvement de sécularisation de la société française où, de toute façon, les Églises commençaient à se vider. C'était pas le moyen le plus sûr de parvenir au pouvoir que de se recommander de l'Église catholique.
J'ai encore une question. J'aimerais avoir votre avis sur la définition de la Révolution française. Révolution bourgeoise ou non? Parce que la République, je veux dire une République bourgeoise. Mais révolution, parce que là, il y a justement des avis partagés. J'ai un avis, je m'y mets, je pense que ce n'est pas une révolution bourgeoise. Mais peut-être que je me trompe, j'aimerais avoir votre avis.
De toute façon, c'est pas une injure, hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance des fois à que le qualificatif bourgeois soit connoté péjorativement. Si on prend l'histoire à cette époque, ça désigne des groupes sociaux particuliers. Je crois qu'on peut difficilement nier le fait que l'éclosion de la Révolution vient du fait que la monarchie française assise sur une aristocratie qui vit de la rente foncière a refusé de partager le pouvoir avec les nouvelles classes montantes, qui étaient les classes industrieuses, ceux qui étaient porteurs du développement économique. Compromis qui a eu lieu en Angleterre au XVIIIe siècle, même avant. Donc là c'est du fait que la monarchie française a été incapable d'organiser cette alliance entre différents groupes sociaux, ça s'est en tout cas résolu comme ça, qu'à travers un changement révolutionnaire qui a mis en place, et on le voit bien dans les mesures prises. J'évoquais la dernière fois la loi Le Chapelier, par exemple. Alors, c'est la suppression des corporations, c'est la libération de l'activité économique, l'ouverture de l'accès au travail, la réduction des manufactures d'État, etc. C'est quand même la classe industrieuse qui prend les commandes, le tiers-État de Sieyès, c'est d'abord la bourgeoisie. Même si le déroulement de la Révolution montre qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'expression « la sans-culotterie parisienne, elle n'exprime pas les intérêts de la bourgeoisie ». La commune révolutionnaire, enfin tous les grands mouvements et les penseurs comme Marat ou autres préparent la future des références qui seront utilisées par les révolutionnaires de 1848, Gracchus Babeuf, qui instruit en 1793, enfin qui veut faire un mouvement révolutionnaire, lui, il s'appuie pas sur le tiers-état, mais sur ce que un auteur de l'époque qui est assez peu connu, mais qui s'appelle Dufourny de Villiers, lui, il appelle, il voit déjà, à l'intérieur de ce tiers-état, ce qu'il appelle le quatrième état, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien. Parce qu'en fait, la redistribution des biens de l'Église, ça va se faire auprès de ceux qui sont déjà propriétaires. Les biens nationaux, ils vont être rachetés par les gens qui ont déjà l'argent. Ça va pas être c'est pas la réforme agraire du Chili, hein, bon, donc d'Allende. Bon. Donc c'est quand même une révolution qui est faite en grande partie par la bourgeoisie, mais évidemment avec la sans-culotterie parisienne, etc. Enfin, une partie du peuple, surtout dans les villes. Hein. Les campagnes, c'est moins évident. Il y a les chouanneries, quand même, dans lesquelles il y a aussi le peuple. Hein. Donc, c'est pas. Mais bon, je pense que c'est pas contradictoire de dire que, vu avec le recul historique, c'était manifestement un mouvement porté par une bourgeoisie révolutionnaire.
Une bourgeoisie révolutionnaire
qui fait éclater le cadre de la société traditionnelle, qui instaure une nouvelle dynamique sociale, et que cette dynamique sociale fait naître de nouvelles contradictions, de nouveaux groupes sociaux qui vont à leur tour contester le pouvoir qu'elle exerce sur la société et l'emprise qu'elle a sur les richesses produites.
Je ne veux pas m'accaparer tout le temps, mais tout à l'heure, il y a une question quand même là, qui revient justement sur l'actualité d'aujourd'hui. Vous disiez qu'il y avait des entreprises de 10 ouvriers, et on y revient. La point d'interrogation. Aussi, je me pose des questions à ce sujet-là. On y revient.
C'est une remarque incidente, parce que je ne suis pas sûr qu'on revienne à la structure économique qui était celle de cette époque-là, mais c'est vrai qu'on est aux prises. Enfin, quand je disais, c'est pour ça que j'ai relativisé en disant, à cette époque-là, la moitié des ouvriers sont dans les petites entreprises, et que du coup, ça rend difficilement visible le groupe social que représente et la force sociale que peut représenter la classe ouvrière. D'une certaine manière, c'est vrai aujourd'hui qu'on est depuis 15 ans dans une démarche de réduction des grandes entreprises. Je crois que le nombre de salariés des grandes entreprises est passé de 5,5 millions en 82 à 4 millions aujourd'hui, les entreprises de plus de 500. Enfin, je le sais, non pas parce que c'est parce que j'ai fait une note là-dessus il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai souvenir de ce truc-là. Ne demandez pas trop. T'as d'autres détails sur lesquels je suis moins au fait, mais ça, je regardais justement l'évolution de cette structure, et que les salariés dans les moins de 10 étaient à 24-25% en 82, ils sont 32% aujourd'hui. Quoi. Bon, mais
c'est parce que les sociétés ont évolué et que maintenant ils se concentrent sur leur cœur de métier et qu'elles font faire par rapport à des prestataires.
Voilà.
Avec
tout ce développement, le développement de l'externalisation, de la sous-traitance. On voit bien les groupes qui se sont démembrés comme ça, en externalisant des parties d'activité.
Il y a les grands bassins d'emploi, les grandes industries textiles qui ont disparu. La sidérurgie, maintenant, effectivement, c'est la zone d'emploi, les mines. Tous les grands bassins d'emploi ont soit disparu, soit considérablement réduit par
les... Même les grandes entreprises d'automobiles, l'acier, tout ça,
sont moins concernées. La productivité,
Il y a 20 ans, il y avait 30 000 ouvriers à Peugeot-Sochaux, ils sont 12 000 aujourd'hui.
Et le problème des prestataires.
Il y a beaucoup d'externalisation.
C'est quelque chose d'effrayant, oui.
Il ne faut pas voir ça forcément comme un problème.
Ça pose des problèmes, pose des problèmes, notamment aux organisations syndicales, par exemple. Ça, c'est l'évidence.
Et puis c'est
animer un tissu d'implantation comme ça, c'est pas la même chose que d'avoir des grandes concentrations dans lesquelles on tient une implantation, on tient une certaine force sociale, une production symbolique importante.
Pour les sociétés, effectivement, ça fait un problème, mais quand on a ça d'un point de vue. L'évolution de la société, des entreprises, c'est pas forcément aberrant de dire qu'il faut peut-être mieux mutualiser certains services qui seront certainement mieux faits qu'avoir au sein même de l'entreprise des gens dédiés à ça et on s'occupe pas vraiment d'eux parce que c'est pas le cœur d'activité.
Oui, il y a des fonctions, mais y compris de RH qui ont été externalisées, les services de paye, de formation, etc.
Donc.
Service, comme des entreprises, etc., qui finalement, tout ça avec l'externalisation, c'est plus difficile. Enfin, donc c'est vrai que sur un plan.
Des gros passes, ouais, ça fait surtout pour les prestataires qui sont des sociétés plus petites souvent. Donc,
avec la pression de la sous-traitance sur les coûts, etc. Enfin,
ceci dit, la grande différence quand même entre cette période-là et aujourd'hui, c'est que les petites et moyennes entreprises aujourd'hui sont totalement intégrées à un système où elles sont sous-traitantes. En France, il y a plus de 50% des entreprises françaises qui sont en train de mettre leur plan de charge. Donc, ça veut dire que du point de vue de l'organisation patronale aussi, il y a des dépendances qui n'existaient pas à l'époque. Chaque petite entreprise avait son secteur d'intervention, etc. Aujourd'hui, elles sont toutes intégrées. Quand il n'y a plus personne dans les grosses entreprises automobiles, mais parce qu'ils sont tout un peu partout d'ailleurs, ils sont décentralisés, en petites structures qui sont organisées autrement.
Oui, ça a des effets socio-économiques. Moi, l'année dernière, j'ai fait une enquête sur le bassin de Saint-Nazaire, là, donc chantier naval, Alstom Atlantique, enfin Alstom, jadis, chantier de l'Atlantique, aujourd'hui. Alors, c'est 3000 personnes, dont 1000 ouvriers, et autour, un bassin d'emploi sur lequel, en période de charge, il y a 10 000 personnes. Et tout, c'est des parties, y compris d'ailleurs de physique de l'usine, qui ont été cédées aux sous-traitants. Alors, au point de vue efficacité économique, il y en a sûrement une, enfin, c'est ce que m'expliquait en tout cas le DRH. Cela dit, la réalité sociale, c'est aussi autre chose, parce que la pression sur les coûts qui est exercée sur la sous-traitance s'exerce y compris, par exemple, sur tout ce qui a trait à la sécurité, enfin, les échafaudages. Avant, bon, c'est les chantiers qui faisaient, ils avaient leurs échafaudeurs, etc. Aujourd'hui, c'est des entreprises sous-traitantes spécialisées qui sont pas forcément, enfin, c'est des PME, mais qui peuvent appartenir à des grands groupes. Suez est un grand spécialiste de ces petites entreprises de services industriels aux entreprises. Alors, il y a Eiffage, il y en a Vinci, enfin, il y a des grosses boîtes qui sont sur ce créneau-là. Le problème, c'est que quand on fait du moins 10 ans sur le montage des échafaudages, ça veut dire qu'on tire sur les coûts de la sécurité, quoi. Et autres fantaisies du genre des salariés qu'on va chercher en Roumanie qu'on paye pas, les Indiens, les Polonais, ils sont en grève de la faim en ce moment encore sur le site. Enfin, c'est un peu parfois le tout et le n'importe quoi ce truc-là, parce que c'est pas vraiment maîtrisé.
L'efficacité économique n'est pas forcément meilleure. Sur le cycle économique qu'on fait depuis quelques temps, on a étayé il y a quelques mois, Airbus en particulier. Ouais. Du point de vue économique, c'est pas évident. Actuellement, ils ont des problèmes en particulier de transfert d'activité, de transfert technologie. Ils n'arrivent pas à avoir les mêmes logiciels d'une entreprise sous-traitante à l'autre. Hein. Mais du point de vue financier, par contre, ça, c'est extrêmement plus productif.
Bah, c'est-à-dire que ça permet d'isoler des centres de profit, ça valorise certaines activités. On peut pas exclure non plus qu'il y ait des mouvements de retour en arrière sur certains aspects hein, de ce truc-là, parce que c'est vrai que toutes les conséquences sont pas. Il y a une espèce de grand mouvement d'externalisation. Je disais l'autre jour, la question c'est plus tellement de savoir ce qu'on peut externaliser, mais qu'est-ce qu'il faut garder. Quoi. Et donc c'est l'idéal type, c'était l'entreprise sans usine, quoi, Alcatel, le projet. Bon, et là-dessus, ils sont un petit peu. Ils sont un peu revenus parce qu'ils se sont plantés, rachetés par Lucent. Quand tu prends
des conseils en disant faire la même activité, ils ont besoin d'un panier.
Voilà. Puis après, dans le cycle conjoncturel, quand on est monoactif, on fait quoi hein. Quand il y a un creux sur une activité, avant on faisait de la péréquation interne. Hein, comme disait l'autre, la comparaison c'était je vends des parapluies et des ombrelles. Parce que. Et ben maintenant, il y a un fabricant de parapluies, un fabricant d'ombrelles. Le problème, c'est que il y en a un des deux qui est toujours borderline.
Rachète les entreprises sous-traitantes parce qu'il n'arrive plus à les contrôler.
Oui, stabiliser. Là, tout le travail.
Maintenant, il doit racheter ses sous-traitants parce que les sous-traitants, finalement, ont refusé du métier et maintenant sont des concurrents.
Tout le travail que fait Airbus, c'est de réorganiser sa sous-traitance et les chantiers de l'Atlantique qui font la même chose. Ils essaient de stabiliser autour de pôles. De sous-traitants, et puis ils parlent même, ils disent des co-traitants maintenant. Enfin, il y a différents types de sous-traitants, c'est un autre débat. Mais moi j'ai regardé ça, c'est complexe.
Quoi. L'impression du...
C'est complexe. Réduire les coûts. Et au chantier, ils ont fait moins 30% hein, les coûts de production d'un navire. Hein. En 10 ans, même pas, 5 ans. Le plan CAP 21. Hein. L'objectif, c'était moins 30%. Ils y sont arrivés. Alors bon, comment ? Bah, je pense que l'externalisation et la sous-traitance a largement contribué.
Il y a des morts,
Il y a des morts de la passerelle d'Andelle, bien sûr.